L'écho
du
parquet.
L'écho du parquet.
L'écho.
L'écho du parquet.
L'écho du parquet. L'émission qui met le feu
au plancher.
Il se dansait beaucoup ici dans le temps.
Longue. Des valses, une heure de temps.
Ah oui,
longue.
Une heure et quart.
Ouais. Ouais.
Et bonjour.
Bonjour, vous êtes dans l'écho du parquet, votre rendez-vous bimensuel sur les musiques et danses traditionnelles.
Voilà, ça doit être la 17e, quelque chose comme ça. Voilà, on en est là. Et l'écho du parquet, vous êtes peut-être en train de l'écouter sur notre audioblog Arte Radio, mais vous pouvez aussi l'écouter sur les ondes.
Voilà, peut-être que vous êtes sur Radio Méga 99.2 FM dans la région de Valence, peut-être que vous êtes sur Fréquence 7, le 92 FM dans la région d'Aubenas, ou sur Radio Saint-Féréol à Cré, le 94.2 FM.
Voilà, et on commence avec de la musique peut-être ?
Eh ben oui.
C'est parti.
Thank you. D'écouter la Pégreuse, c'était une bourrée de temps du groupe Slabia. Alors normalement Slabia c'est un gâteau oriental, hein, plein de sucre et d'huile, mais là ça s'écrit avec un Y et c'est un quintet avec batterie, basse ou contrebasse, violon, accordéon diatonique, trompette, guitare et puis bien sûr des machines. Alors rien qu'à l'identité graphique du groupe, que ça soit les pochettes d'albums ou leur site internet, on sent qu'on va flirter sévèrement avec l'électro. Parce qu'il y a des nuages, des fusées, des couleurs vives, des visages énigmatiques avec des lunettes bizarres, enfin bon, tout ça nous évoque soit les années 80, soit une bonne dose d'électro. Slabia existe depuis une quinzaine d'années mais a pas mal changé de style au fur et à mesure des musiciens qui ont rejoint le groupe ou qui l'ont quitté. Et après deux albums en 2015 et 2017, le groupe vient de sortir un EP de 5 titres qui s'appelle Minuit Midi, dont le morceau qu'on vient d'écouter est issu. Alors c'est peut-être pas le plus enjoué du disque, sur lequel vous trouverez aussi des compos plus déjantés.
Moi je trouve ça déjà très enjoué justement.
Ah ouais, c'est un peu sombre, les nappes.
Ah ouais.
Mais il y a plus joyeux en fait, voilà.
Wow.
Il y a des incitations. Enfin, écoutez-le, tout incite à la danse en fait. On se croirait assez en boîte de nuit. Enfin, une boîte qui programmerait du trad quand même.
Oui, mais de toute façon, les boîtes de nuit se vident des jeunes pour aller dans les bals trad aujourd'hui.
C'est bien connu. En fait, c'est perceptible à l'écoute, mais c'est encore plus vrai lorsqu'on les voit jouer sur une scène de bal. Ils s'amusent en fait comme des petits fous, avec une bonne place laissée à l'improvisation et puis la musique trad comme terrain de jeu.
Thank you.
Nous venons d'entendre une paire de Scottish, c'était Papillon de nuit et Les Oranges Bleues, du groupe Comrade, et c'était une compo de Loïc Etienne. Alors dans Comrade, pur produit de l'association Les Braillots, qui vous sera présenté plus en détail juste après, on peut entendre Mathilde Carvex à la clarinette, Antoine et Clémence Cognier à la guitare et au violon, et que nous avons rencontré il y a peu, Loïc et Cyril Etienne. Chacun des deux frères a une paire de groupes à son actif, on peut citer pour Cyril par exemple Grave Noir ou Comrade, et pour Loïc Terroir Collapse ou Apécopé. Ils forment aussi un duo, le duo Etienne, et on les écoute nous présenter leur duo et l'association des Braillots.
Alors, moi, je suis Loïc Etienne, je joue de l'accordéon.
Et donc, moi, c'est Cyril Etienne, le frère, et je joue de la clarinette.
Alors, vous êtes un groupe, le duo Etienne, du coup, et qui est un groupe des Braillots. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu la structure? Qu'est-ce que c'est que les Braillots? Voilà.
Donc, les Braillots, en fait, c'est une association d'éducation populaire qui existe depuis, on va dire, une quarantaine d'années, qui est implantée dans le Puy-de-Dôme, donc à Saint-Bonnet-Prairion, à 20 km de Clermont. Voilà, donc association qui travaille sur les musiques, les danses traditionnelles et plus largement en fait le patrimoine culturel immatériel de l'Auvergne et du Massif central. En fait, l'association elle a un lieu qui s'appelle le Gamounet, donc qui est une ancienne ferme viticole donc qu'elle a achetée en 1980 et qu'elle a restaurée pour développer toutes ses activités de transmission, de création et de diffusion. Voilà.
Ok. Et en fait, la particularité, c'est qu'il y a quand même beaucoup de groupes qui, on dirait, qui sont issus de cet asso. Comment vous expliquez ça? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a une volonté de fabriquer des groupes, quoi?
Oui, alors aujourd'hui, il y a... Bon, je veux bien. Allez, aujourd'hui, il y a à peu près une vingtaine de groupes. Et puis, il y en a eu d'autres dans le passé qui n'existent plus aujourd'hui. Donc, je ne sais pas quel est le compte total, mais je pense qu'on ne doit pas être loin de la cinquantaine de formations ayant existé dans l'association. Ça s'explique, oui, je pense, parce qu'il y a une volonté d'avoir une pratique créative assez large. Et donc ça, c'est un peu la volonté, je pense, philosophique de l'asso, qui se perpétue de génération en génération. Et puis après, ben, concrètement, le fait d'avoir un lieu dans lequel il y a une école de musique, de laquelle sont issus une partie des musiciens et des musiciennes qui jouent actuellement dans ces groupes, ça joue. Et puis le fait d'avoir un lieu, ça fait aussi qu'il y a une récurrence dans les événements, que ça attire aussi des nouvelles personnes. Et je pense que tout ça, ouais, crée un petit foyer, quoi, assez bouillonnant, qui fait que ça reste ouvert à des nouvelles personnes qui viendraient grossir les rangs du côté artistique, quoi.
Et l'orientation, elle est auvergnate exclusivement, enfin, ou c'est quoi un peu l'orientation Braillot? C'est défendre un territoire.
Je pense qu'il y a l'idée quand même effectivement de s'ancrer dans les musiques et les danses du Massif central, plus que Auvergne, hein, je dirais. Et là, j'élargirais bien sur le Massif central parce que c'est l'aire culturelle de référence. Après, ça pourrait être ouvert aussi en vrai, je pense, à d'autres esthétiques, hein. Il y a pas forcément, et d'ailleurs il y a eu des expériences artistiques un peu à la croisée un peu d'autres esthétiques, la chanson, la fanfare, voilà, je pense qu'on est quand même dans une optique d'être assez ouvert, quoi.
En fait, notre arrivée dans cet univers, c'est quand même un petit peu du hasard, en fait. Puisqu'en fait, nous, nos parents ne sont pas du tout musiciens. Et donc, en fait, on est arrivé... En fait, on s'est installé avec nos parents dans le village, à Saint-Bonnet-Prairion. Et en fait, il se trouve que... en fait, on a vu qu'il y avait une association qui proposait des ateliers d'éveil musical pour les enfants. Après, c'est allé très vite, hein, parce que après on fait de l'éveil musical, et puis après le but c'est quand même d'inciter les enfants à faire une pratique musicale. Et donc nous avons commencé tous les deux l'accordéon diatonique la base, ouais, moi aussi, voilà. Et après moi je me suis mis à la clarinette un petit peu plus tard, donc quand j'avais 16 ans.
avec le duo Étienne, on fait de la musique trad à danser du Massif Central. Voilà, on n'a pas de, on n'a pas vraiment un répertoire de prédilection. Il y a du trad, il y a des compos. Dans le répertoire trad, il y a des choses qu'on va qualifier plutôt de basse Auvergne, donc qui viennent vraiment plutôt du Puy-de-Dôme, de là où on a grandi, des Combrailles, de la Plaine. On a aussi des morceaux plutôt de haute Auvergne, donc plutôt répertoire Cantal, Aveyron. On joue un peu aussi des airs du Limousin. Donc je pense pas que sur le choix du répertoire, il y a une démarche particulière. Et après, dans le son, eh ben, je dirais qu'on est quand même... avec le fait qu'on joue de l'accordéon et de la clarinette, qui sont un peu quand même des instruments assez emblématiques, à mon avis, des braillots. Et de ce qu'on appelle, de ce qu'on appelle le son braillot. Ouais, je pense que ça fait partie des... Et du coup, il y a un peu quand même... Bah, c'est dur à définir, justement. Et je pense qu'un des paramètres, c'est l'instrumentarium. Et notamment le fait que la clarinette occupe une place quand même relativement importante par rapport à d'autres, par rapport à d'autres endroits, d'autres régions. Donc voilà, je dirais qu'il y a un peu, on est un peu, on s'inscrit dans cette lignée du son, voilà, donc avec un son quand même assez, enfin ça va être dur à définir, mais assez plein, voilà, très très rythmique aussi, voilà.
Plutôt il y a la podorythmie qui est très importante aussi quand même.
Oui, mais après on tape tous les deux du pied, de toute façon globalement nous dans la façon dont on a appris la musique, et puis ça continue comme ça aujourd'hui chez les braillots et puis évidemment ailleurs aussi, la podorythmie fait vraiment partie de la musique, quoi. Donc là après bon, on sonorise mes pieds par habitude parce que moi j'ai un peu travaillé ça, mais en vrai on tape tous les deux du pied et ça fait partie de notre musique, quoi.
Après moi je dirais que c'est après plus au niveau de l'arrangement entre guillemets, c'est une musique, en fait on a quand même un squelette de base, et en fait c'est, je trouve que c'est assez mouvant en fait, parce que voilà, ça évolue, ça se construit en fonction de notre humeur. Même des fois, il y a des voilà, on part un peu sur des pistes qu'on n'a pas forcément prévues en fonction de ce que fait l'autre. Voilà, donc c'est une musique qui est quand même arrangée de manière assez simple, mais qui laisse place à un peu de l'imprévu ou
de l'improvisation quand même.
Alors oui. Ouais, c'est de l'improvisation. Ouais. Moi je joue dans, bah, du coup dans Comrade, je joue sinon aussi dans Grave Noir, donc qui est aussi une formule braillaude, voilà. Mais après moi la petite différence avec mon frère, c'est qu'en fait la musique ce n'est pas mon métier, du coup j'ai moins de, enfin je veux dire j'ai moins de groupes, enfin voilà,
moins de temps,
moins de disponibilité, mais voilà, malgré mon activité professionnelle j'arrive quand même toujours à garder, à jouer, voilà, de temps en temps, quoi.
Et t'es pas obligé de répondre à cette question indiscrète, mais pourquoi c'est pas ton métier ?
Parce que en fait, ça a toujours été mon loisir, et en fait, je l'ai jamais envisagé, j'ai jamais voulu en faire ma carrière professionnelle.
Quand même, il y a un élément de réponse qui est lié au fait que nous, on a grandi dans un contexte, dans l'association Les Braillots, où en fait quand on était en âge de se professionnaliser, on avait assez peu de modèles professionnels, parce que l'association a été beaucoup portée par des personnes qui avaient un autre métier, mais qui par contre avaient se donné à fond quand même dans leur activité artistique, s'épanouissaient totalement, créer de la musique, enregistrer des disques, tourner, voilà. Et on a beaucoup grandi avec ce modèle-là, je pense, de la double vie, entre guillemets, en tout cas de l'activité mixte, d'avoir... et c'est une des forces de l'association d'avoir aussi d'entretenir ça, cette idée qu'on peut avoir des amateurs éclairés qui portent ces musiques-là, et c'est pas forcément... ce n'est pas qu'une histoire de statut. C'est vraiment aussi une histoire d'engagement, et qu'il y a plein de façons de s'engager et de devenir une locomotive pour ces musiques, et que ça passe pas forcément par le fait d'en vivre, quoi. Mm-hmm. Ça, c'est un paramètre, mais c'est pas le seul, quoi. Nous, quand on était jeunes dans l'association, il y avait pas ou peu de professionnels de la musique. Donc, il y avait que de la pratique amateur. Du coup, avec un niveau plus ou moins élevé, avec un engagement plus ou moins fort. Aujourd'hui, il y a quand même, l'association a justement beaucoup œuvré à la professionnalisation des personnes qui le souhaitaient. Donc aujourd'hui, il y a pas mal de personnes qui vivent de la musique dans le collectif artistique, mais il y a encore aussi beaucoup d'amateurs. Et voilà, et là, c'est assez variable. Ça va de gens qui ont un groupe, qui jouent une fois de temps en temps, et puis d'autres personnes comme Cyril, qui ont plusieurs groupes, qui en fait jouent quand même régulièrement. On pourrait presque parler d'un statut semi-professionnel. Voilà. Il y a un peu de tout. Okay. Et c'est, je pense, ce qui fait aussi la force du projet, quoi.
Faites des stages et est-ce qu'il y a une pédagogie braille, enfin comment vous entendez transmettre ça?
Moi j'ai quand même l'impression qu'il y a ce souci perpétuel de s'approprier un patrimoine, mais tout en laissant la porte ouverte à de la liberté dans l'appropriation, enfin de donner des clés, mais pas trop, de façon à permettre un peu de s'émanciper un peu de tout ça et apporter en fait sa touche personnelle. Enfin, j'ai l'impression en fait que c'est un peu ce qui ressort de la pédagogie.
Moi, je suis d'accord. J'attendais que tu emploies le terme d'émancipation. Parce que pour moi, c'est un peu le mot-clé. Ça va vraiment avec le projet d'éducation populaire de l'association. Voilà, cette idée que ces matériaux, ce sont des matériaux qui servent à fabriquer de l'émancipation. Donc, pour moi, ça veut dire deux choses. Ça veut dire effectivement faire en sorte que les gens trouvent leur chemin de liberté. Et en même temps, ça veut dire voilà, aussi leur donner suffisamment de billes, de matière, pour qu'ils puissent s'ancrer dans quelque chose qui existe, qu'ils puissent se comparer à... J'avais lu une fois une formule qui m'avait bien plu, d'ailleurs je ne sais plus qui avait dit ça, mais il disait que quand il faisait un stage, il essayait de faire en sorte que les gens trouvent leur chemin de liberté en confrontant leur position à celle des musiciens et des musiciennes du passé et aussi du présent. Enfin voilà, c'est comment tu trouves toi ta place, et en même temps c'est bien pour trouver sa propre place, c'est bien aussi d'avoir une vision du tableau, quoi, de qui fait quoi, quelles étaient les pratiques avant. Donc voilà, c'est un peu ce double objectif, je pense, qui est assez présent dans la pédagogie, on va dire, braillaude, mais on n'est pas les seuls, hein. Je pense quand même que c'est un truc qu'on trouve assez souvent dans les musiques trad, ouais, de tradition orale.
Pas de côté.
Pas de côté.
Et on va faire maintenant un petit pas de côté vers des musiques traditionnelles et populaires non européennes, même si largement d'origine européenne, puisqu'on va aller faire un petit tour du côté des musiques trad d'Amérique du Nord.
Beans and you cross the table, eating beans and making love as long as I'm able. Hoeing corn and cotton too, and when the day is over, ride a mule and cut the fools and love again all over. Don't you cry, I'm going to Louisiana. A vacuum dog and a big fat hog, and there's Susanna. Ding dong, sing song, I'll take a trip to China. Cornbread, butter beans, and then Carolina. Cornbread and butter beans, and you cross the table. Eating beans and making love as long as I'm able. Hoeing corn and cotton too, and when the day is over, ride a mule and cut the fools and love again all over. Shoes and drinking booze, it goes against the Bible. A necktie will make you die and cause you lots of trouble. Streetcars and whiskey bars and chasing pretty women. Women, yeah, that's the end of a terrible beginning. Cornbread and butter beans and you cross the table. Eating beans and making love as long as I'm able. Growing corn and cotton too, and when the day is over, ride a mule or cut the fool and love again all over. Can't read and don't care, and education's awful. Raising heck and writing checks, it ought to be unlawful. Silk clothes and fancy clothes is just a waste of money. Come with me and stay with me and say you'll be my honey. Cornbread and butter beans and you cross the table. Eating beans and making love as long as I'm able. Hoeing corn and cotton too, and when the day is over, ride a mule and cut the fools and love again all over.
Et c'était les Carolina Chocolate Drops avec le morceau Cornbread and Butter Beans. Et c'est un groupe qui est très intéressant pour illustrer la chronique livresque qui va suivre, puisque c'est un groupe composé de noirs américains qui jouent de la musique, non pas de noirs américains tels que le blues ou le jazz, mais qui jouent une musique de blancs américains dans la plus pure tradition bluegrass et même old time. Voilà, voilà. Et maintenant, je vais vous présenter un livre qui explique très bien pourquoi la présentation telle que je viens de la faire est très largement bidon et marquée par un prisme racialiste hypertrophié qui n'a pas grand sens d'un point de vue musical. C'est un livre de Thierry Aznar qui est paru en février dernier aux éditions Camion Blanc et qui s'intitule « La musique noire n'existe pas, la musique blanche non plus ». Vous trouverez sa référence ainsi que d'autres références qui intéressent cette chronique sur la page de l'émission du jour sur notre audioblog. Et l'auteur va en fait à l'encontre des modes actuels en sciences sociales et il entreprend de déconstruire le cliché racialiste selon lequel il aurait existé dans l'histoire des États-Unis une musique noire d'un côté, une musique blanche de l'autre, qui aurait éventuellement fusionné au sein du rock'n'roll dans les années 50. il propose au contraire une lecture de classe du creuset des musiques américaines du début du 19e et début 20, fin 19e, pardon, début 20e, qui constitue l'équivalent outre-Atlantique de nos musiques trad européennes qui se codifient un peu à la même époque.
Alors quand tu dis une musique de classe, en fait, c'est une musique de riche et une musique de pauvre.
C'est ça, c'est ça. Il dit, il y a de la musique populaire, j'y reviendrai, ça a du sens, mais le noir ou blanc, pas. Et il part dès l'intro d'une célèbre sentence, on peut dire comme ça, du bluesman Willie Dixon, qui affirmait que le blues, je cite, hein, « le blues est la racine et les autres musiques sont les fruits ». Fin de la citation. Et malgré le soutien qui lui a été apporté par une chanson de Johnny Hallyday, toute la musique que j'aime, elle vient de là, tout ça, Thierry Aznar conteste cette formule de Willie Dixon en disant que, je cite, « cette affirmation ne correspond en rien aux réalités historiques et musicologiques du blues », fin de citation, et qu'au contraire, je cite, « country, folk, blues, jazz et gospel sont les fruits d'un même arbre qui trouve ses racines dans les traditions musicales américaines du 19e siècle ». Et il va donc ensuite démontrer point par point que si ça a effectivement du sens d'opposer musique populaire, musique des élites, jusqu'à un certain point, ou musique des campagnes, musique des villes, ça n'a pas du tout de sens d'opposer musique noire et blanche, qui sont des expressions qui qualifient d'ineptes et d'obsolètes. La démonstration, elle est tout à fait minutieuse, et elle s'appuie sur des travaux de musicologues et d'historiens de la musique qui sont très précisément référencés. Il y a des articles entiers qui sont dépouillés, qu'on peut aller voir après, et qui sont largement cités dans le livre. Et chose rare pour des livres sur la musique, ça commence par un exposé musicologique, justement, et pas des contextes sociaux, tout ça. Et ça commence par une évocation des travaux du musicologue Philip Tagg, qui a remis en cause les catégories telles que musique noire, musique afro-américaine, musique européenne. Et il l'a fait autour de quatre éléments clés qui sont censés être typiques de la musique dite noire. Je cite donc ces quatre catégories, c'est la blue note, les techniques d'appel et de réponse, le call and response, la syncope et l'improvisation. Et il montre pour chacune de ces catégories, de ces critères, qu'elles ne sont spécifiques pas du tout à la catégorie supposée musique noire et qu'on la retrouve tout à fait ailleurs et avant. Thierry Aznar cite aussi l'historienne Cécile Vidal, qui a une approche qui relève au sens réel du matérialisme historique et qui, elle, se demande par quel miracle une espèce de essence africaine aurait pu survivre à l'implacable processus de déculturation-acculturation dont les esclaves africains transportés en Amérique ont été à la fois les objets et les victimes. La plupart des esclaves africains sont en fait, fin 19e, des esclaves américains, descendants de personnes qui, elles, avaient vécu en Afrique. Et quand on s'intéresse aux ascendances des artistes fondateurs des musiques dites noires, ce que fait Thierry Aznar en détail en reprenant plein de biographies, une partie d'entre eux sont en fait, une large partie d'entre eux sont des métis qui ont des ascendances africaines, européennes, mais aussi amérindiennes, très souvent. Et en réalité, malgré les logiques ségrégationnistes, les populations se fréquentent, se mélangent au sein des couches populaires, et donc il est logique qu'il en aille de même de leur musique. On peut prendre par exemple, c'est détaillé à un moment donné dans le livre, deux guitaristes, Chuck Berry et Carl Perkins, dans les années 50, l'un est noir, l'autre est blanc, mais en fait, ils ont connu des conditions de vie semblables et ils ont produit une musique très proche. Même si l'un est plutôt estampillé rhythm and blues rock et l'autre country, en fait, à cause de leur couleur de peau, mais pas fondamentalement à cause de leur musique. Alors, on va prendre un exemple, je vais essayer de vous montrer ça musicalement.
Est-ce que le problème, c'est pas de catégoriser les musiques, tout
alors,
bêtement?
Ah oui, bah après, ça donne des points de repère. Moi, si on me dit tel et tel truc, je sais à quoi ça ressemble et j'aime bien ou pas. Je reviendrai à la fin pour dire que quand même, ça peut avoir du sens, les catégories en musique. Et je vais essayer de prendre un exemple qui montre ce que j'essaie de dire avec Bob Wills and his Texas Playboys, avec un morceau qui s'appelle Ida Red. J'ai pas trouvé avec certitude la date de cet enregistrement. C'est probablement pas la première version qu'il a enregistrée en 1938, sans doute quelque chose un peu plus tard, les années 40. Et Bob Wills est un des pionniers de la country music, avec chapeau de cow-boy, de tout son groupe, la tenue qui va avec, très mode country et western. Donc tout ce qu'il y a de plus blanc de chez blanc dans l'imaginaire collectif. Mais comment ne pas entendre dans le morceau qui vient le swing, d'ailleurs ça s'appelle le western swing, et l'influence directe de musiques qui sont généralement cataloguées comme noires.
Got parlor, find the great clock on the mantel, says it's getting late. The curtains on the window, snow is white, the parlor is pleasant on Sunday night. Hide a red, I'm plumb fool about hide a red. Picture on the wall, that's pretty soap, and that's not all. If I'm not mistaken, I'm sure I'm right. There's somebody else in the parlor tonight. I'd read, I'm plumb fool about I'd read. Checking in the bread pen, packing out your old granny. We get all by no child. No, it's hurry up, boys, and don't fool around. Grab your pint and truck on down. I'd read, I'm plumb fool about I'd read. Now, go! Mistress swore to me when she died, she set me free. She lived so long, her head got bald. She took the notion not to die at all. Oh, I'd read, I'm plumb fool about I'd read. Parlor, find the great clock on the mantel, so this is getting late. The curtains on the window, snowy white, the parlor is pleasant on Sunday night. I'd a read, I'm plumb fool about I'd a read. Picture on the wall, that's pretty soap, and that's not all. If I'm not mistaken, I'm sure I'm right. There's somebody else in parlor tonight. I'd a read, I'd a read, I'm plumb fool about I'd a read.
Vous n'avez entendu ni une bourrée, ni une scottish, ni même une valse. C'était le pas de côté de votre émission pourtant consacrée aux musiques traditionnelles, mais en fait pas forcément européennes.
Voilà.
Puisqu'on a écouté Bob Wills and his Texas Playboys.
Voilà, et donc je parlais, je prenais ça comme exemple du propos qui est tenu dans le livre de Thierry Aznar, « La musique noire n'existe pas, la musique blanche non plus ». Et dans la deuxième partie, le livre entreprend une histoire de l'industrie musicale américaine. Et cette histoire-là, elle milite aussi en faveur de la non-pertinence des catégories raciales, la plupart des musiciens fréquentant les mêmes studios au sein de groupes qui sont souvent mixtes. Et c'est vrai dans les années 50, mais c'est vrai aussi dès les premiers enregistrements du début du XXe siècle, comme on le voit très bien dans l'excellente série documentaire American Epic, dont on mettra le lien en référence en dessous, qui est consacrée à cette histoire de l'enregistrement de la musique américaine, où les catégories de musique noire et blanche sont absentes, faute d'y avoir de la moindre pertinence. Alors d'où viennent ces catégories racialistes si communément répandues aujourd'hui, au point que la première fois qu'on prend le livre en main, on trouve quand même que ce titre, « La musique noire n'existe pas, la musique blanche non plus », est un peu provocateur, et on se dit « bon, c'est un truc un peu excessif qu'il a mis comme ça pour accrocher le lecteur ». D'abord, ces catégories sont un héritage de la ségrégation raciste, qui est imposée dans le sud des États-Unis, là où sont nées la plupart des musiques traditionnelles dont on parle, notamment au sein de ce melting pot qu'est le delta du Mississippi. Les catégories ont ainsi été véhiculées par des pratiques commerciales consistant à segmenter les publics à défaut de pouvoir réellement séparer les musiques et les musiciens. Et dans un deuxième temps, alors que la catégorie de musique blanche n'était défendue par à peu près personne sauf peut-être deux ou trois zombies racistes du Ku Klux Klan, la catégorie de musique noire a été ressuscitée et véritablement imposée par les tenants du Black Power au sein du mouvement des droits civiques dans les années 60. Et là, la technique du retournement de stigmate a fonctionné à plein, quitte à, comme souvent avec les nationalismes, fantasmer un passé plus ou moins mythique. Et quitte à paradoxalement redonner une seconde vie à des catégories racistes et ségrégationnistes qui n'ont pas de sens d'un point de vue musical. Alors maintenant, voilà ce que développe le livre. Je vous laisserai en lire plus. Maintenant, pour revenir à nos moutons trad d'ici, est-ce qu'il y aurait des leçons à tirer de ça ? Faut-il, par exemple, arrêter de parler de musique bretonne, basque ou auvergnate, par exemple ?
Hors de question.
Eh ben oui, effectivement, je dirais pas du tout. Parce que ici, nous ne parlons pas de catégorie ethno-raciale ou de sorte d'essence atemporelle, mais on parle d'ancrages territoriaux, de continuums historiques qui sont globalement traçables et qui ont aussi un sens du point de vue de la musique ou de la danse. Et on se fout complètement de la couleur de peau ou même des ascendances des gens qui pratiquent ces musiques. Alors, on l'a vu un peu avec les frères Étienne tout à l'heure, il paraît que c'est mieux d'être tombé dedans quand on était tout petit et que ça aide à bien s'immerger, à apprendre plus tard, pas de soucis. Mais ça n'empêche pas d'apprendre par la suite, même si on s'est immergé, pas immergé gosse, on peut apprendre. Et surtout, la couleur de peau, le genre ou les orientations sexuelles des pratiquants ne changent rien du tout à l'affaire et sont des critères sans utilité concrète. La transmission de la pratique vivante de la tradition franchit aisément toutes ces barrières. En bref, en musicologie comme ailleurs, abat le droit du sang, vive le droit du sol, mais un sol sans frontières où les êtres humains et leur culture voyagent et s'échangent sans barrières. Et l'on va bien entendu finir cette émission en musique, avec un pas encore plus de côté et un improbable mais très réussi mélange entre deux traditions de continents différents et deux traditions qui a priori sont très différentes, puisqu'on va vous proposer d'aller faire un tour du côté d'un album qui s'appelle Lambarena et qui est un projet qui a été initié en 1993 par la collaboration entre deux musiciens, le musicien gabonais Pierre Akangdege et l'autre étant Hugues de Courson qui fut un des piliers de Malicorne dans les années 70. Et le projet consiste à mêler la musique traditionnelle africaine avec des extraits d'œuvres de Bach. Voilà. Et ça fonctionne bien, comme par exemple ce mélange entre deux titres, Sankanda et le morceau de Bach qui est plus compliqué à prononcer, même s'il n'est pas africain, et qui s'appelle Lasset uns denn nicht zerteilen. Sur lequel on se dit ben, au revoir et puis rendez-vous dans 15 jours.
Mombasa, 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 Mombasa. sans qu'en dame et plané, caille et moigne,